Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cette question du docteur de la loi reçoit successivement deux réponses pour nous faire passer de la réponse cérébrale à la réponse du cœur et nous introduire au mystère d'aimer comme le Père nous a aimés. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La première réponse, le docteur de la loi l'énonce lui-même en citant l'Écriture et les deux grands préceptes de la loi, « Aime le Seigneur et aime ton prochain ». À ce niveau théorique, tout est dit, il n'y a rien à rajouter. Jésus offre au légiste une parole de bénédiction, à lui, à sa capacité de répondre en son nom propre. Il le conforte dans son être. Il reconnaît sa capacité à répondre à un savoir. « Tu as bien répondu, dit Jésus. » Puis il l'envoie en vue de lui faire découvrir cette autre part de lui-même, sa capacité à avancer dans l'inconnu, à faire face à l'imprévu. « Fais cela et tu auras la vie. » La vie est dans la relation, la rencontre de l'autre, dans des vrais jeux qui rencontrent les autres en leur disant de vrais « tu ». La deuxième réponse, c'est la parabole de Jésus. Une réponse dynamique sous la forme d'un programme de réflexion. Si je ne sais pas qui est mon prochain, je ne suis pas en état d'aimer Dieu. Jean nous dit, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais apprécions toute la finesse de la réponse de Jésus qui nous fait passer de « qui est mon prochain ?» à « de qui suis-je le prochain ?» qui nous rend acteurs, décideurs de la réponse à donner, qui nous apprend à user de notre liberté face à l'inconnu de la situation. Ce n'est pas à nous de décider qui est notre prochain, c'est à nous de devenir le prochain de celui qui est sur notre route, quel qu'il soit. Va, et toi aussi fais de même. Agis de la même manière que le Samaritain. Or, qu'a-t-il fait cet étranger, ce pauvre, méprisé de tous, repoussé des Juifs, cet exclu? Il a mis en œuvre sa miséricorde, sa bonté, envers le blessé rencontré par hasard sur la route. Lui qui est tenu pour désobéissant à la loi, en est le vrai pratiquant. Dans cette charité active du Samaritain, il est intéressant de repérer trois moments. D'abord, le moment de l'émotion. En arrivant près de la victime, le Samaritain est remué, dit l'Évangile. C'est le même verbe qu'emploie l'Ancien Testament en grec quand il s'agit de Dieu ému jusqu'aux entrailles des souffrances de son peuple. C'est lui, le Samaritain, qui exprime, mieux que le prêtre ou le lévite, la compassion du Seigneur. Il actualise ce que le Seigneur avait révélé en Exode 3 devant la détresse de son peuple humilié. « J'ai vu la misère de mon peuple. » J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer. La première attitude dont témoigne le Samaritain est donc la capacité d'accueil de l'autre, d'attention à sa détresse, d'écoute de ses besoins. Seigneur, ai-je les yeux et les oreilles ouverts pour entendre et voir la détresse? Vient ensuite le deuxième moment, le moment des premiers soins, où il lui faut soulager le blessé sans se laisser arrêter par le sang ou les plaies, faire les gestes qui sauvent pour un homme quasi inerte et le hisser tant bien que mal sur sa propre monture pour le transport. Le Samaritain interrompt sa route. Il décide de prendre soin de l'homme. Il s'engage concrètement, ici et maintenant. Il va plus loin que le sentiment, la compassion, pour s'engager délibérément, volontairement dans l'action. Il exerce sa miséricorde. Enfin, et c'est le troisième moment, le Samaritain prévoit lui-même un relais de sa propre charité, non pas pour se désintéresser ensuite du blessé, non pas pour laisser à l'aubergiste tout le poids du sauvetage, car le Samaritain reviendra. Et d'un bout à l'autre, c'est lui qui aura payé, payé de sa personne, de son temps, de ses deniers. Mais il inscrit son action dans la durée. C'est l'accompagnement. C'est cela se rendre proche. C'est cela aimer. C'est cela sauver. Savoir s'arrêter devant une souffrance, savoir trouver les mots et les gestes qui sauvent, savoir prendre en charge dans la durée ceux que la vie a blessés. La charité a sa logique et souvent le premier instant engage tout un cheminement. Si l'on s'arrête, on sait qu'il faudra panser les blessures. Si l'on soigne le blessé, il faudra le transporter pour qu'il survive. Si on le confie à quelqu'un, il faudra repasser et régler la dette. Et tout cela pour un blessé rencontré par hasard, pour un malheureux que d'autres auraient dû voir et aider avant nous. Mais voilà, nous avons été remués. Et c'est à nous, dès lors, d'imiter Dieu, c'est à nous de payer de nous-mêmes. Souvent, nous serions tentés de passer de l'autre côté, de nous dérober, de détourner les yeux et de passer outre, de perdre patience devant l'inertie du blessé et d'oublier qu'il ne peut rien sans nous. Le prochain ne se définit pas par sa catégorie sociale, ethnique ou religieuse. C'est quelqu'un qu'on croise accidentellement, qui a besoin d'aide et que l'on secourt. Le prochain est celui dont on s'approche. Frères et sœurs, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho passe devant chez nous et nous l'empruntons tous les jours. C'est la route de notre travail, de nos responsabilités, de nos solidarités et de nos fraternités. Ouvrons les yeux, demandons à Jésus de les garder ouverts et laissons-nous arrêter comme lui par les blessés de la vie. Car sur sa route, Jésus nous a trouvés en foule, à demi-mort. Et il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Il nous a aimés et s'est livré pour nous. Il s'est fait notre prochain. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus et qui ne peuvent s'en sortir seuls. Il nous confie à l'Église, conduite par l'Esprit Saint, où nous sommes à l'abri jusqu'à ce qu'il revienne. Le Seigneur est descendu de sa gloire pour se mettre au niveau des pauvres pécheurs. Il a abandonné tous ses droits pour nous élever à la jouissance de ses propres droits. En faisant échange de place avec nous, il nous met en pleine sécurité. En donnant sa propre vie pour notre rançon, il nous donne toutes choses avec elle. C'est un salut éternel, c'est une sûreté éternelle. Il nous faut apprendre à connaître ce prochain-là, apprendre à recevoir sa grâce et sa miséricorde avant de l'exercer nous-mêmes envers notre prochain.